Comme on l'a chanté ce matin, quand on s'abandonne à Christ, il y a des guérisons, il y a des restaurations. Et Dieu est plus que vainqueur pour cela. Et je crois que ce matin, Dieu, il veut nous communiquer une restauration pour qu'on puisse vivre et qu'on puisse transmettre quelque chose qui soit bon à tous ceux qui nous entourent. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire un état des lieux de ce que l'on transmet. Alors déjà, on va regarder un petit peu la définition de la transmission. Alors la définition de la transmission, tout simplement, c'est l'action de faire passer quelque chose à quelqu'un. Des synonymes pour bien fixer notre attention, c'est léguer, communiquer, contaminer, se propager. C'est vraiment ça qui signifie transmettre. Et je crois que c'est important de faire un état des lieux. Parce que si on ne fait pas d'état des lieux, si on ne fait pas des constats clair, concret dans nos vies, on ne peut pas avancer. Et quand on parle d'état des lieux, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est quand on veut louer ou acheter un appartement, une maison, et qu'on veut se projeter dans quelque chose de nouveau, on veut changer de là où l'on est pour aller vers quelque chose d'autre. Et quand on veut acheter ou louer un appartement, une maison, on doit prendre le temps de faire l'état des lieux. On visite notre maison, on visite l'appartement et on regarde ce qui va, on regarde ce qui ne va pas. On regarde ce qui est en bon état, on regarde ce qui est abîmé. On doit faire le point au fur et à mesure dans toutes les pièces de la maison, dans tous les recoins, dans tous les détails, dans toutes les petites intrications, dans toutes les choses qui peuvent être même masquées, qui peuvent être cachées. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on n'a pas un juste état du constat que l'on fait et de l'état de lieu que l'on fait. C'est la même chose dans notre vie. Si on ne fait pas concrètement l'état des lieux dans notre vie, on ne va pas dans les recoins, on ne regarde pas ce qui est abîmé de ce qui est bon, on ne pourra pas avancer avec Dieu. La croissance avec Dieu dépend de l'état des lieux que l'on fait. Si on ne fait pas d'état des lieux, il ne peut pas y avoir de croissance parce qu'on se voile la face. Et il faut faire le bilan, le point, parce que, vous savez, en fait, on transmet ce que l'on fait, mais on transmet aussi ce que l'on est. C'est une réalité, et si on en prend compte en profondeur et qu'on choisit de faire un bon état des lieux, je peux vous garantir que l'Église, elle va croître. D'abord en nous, ça va changer les choses en nous, mais ça va changer les choses aussi autour de nous. On est appelé à être des disciples. On est appelé à répandre la parole sur toute la terre, à la transmettre. Mais si on ne fait pas l'état des lieux dans nos vies, on ne pourra pas le faire efficacement. Ce n'est pas possible. Et je crois pour cela que ce n'est pas le fait de faire l'état des lieux, le fait de vouloir transmettre, ça doit être ancré dans l'ADN de chacun d'entre nous. C'est une définition, c'est quelque chose qui est inhérent à chaque chrétien. Si on ne vit pas cela, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut. Parce que le cœur de Dieu, c'est de transmettre sa parole. Le cœur de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Le cœur de Dieu, c'est qu'il pleure ardemment pour que chacun le connaisse véritablement et rentre en relation avec lui. Si du coup, on est croyant, on est chrétien, on doit avoir le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit le chercher et c'est pour ça qu'on doit être en relation en profondeur avec lui parce que ce faisant, eh bien, on connaît le cœur de Dieu et on aspire à répondre à l'ardent désir de Dieu que tous soient sauvés. Ce matin, j'aimerais d'abord qu'on puisse s'attacher à ce premier point, on transmet ce que l'on fait. Alors, quand je vous parlais d'état des lieux, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et ce matin, je vous assure, en préparant le message la semaine précédente, les fois d'avant, quand je pensais à ça, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je vous dise là? C'est pas possible. Là. L'état des lieux, quand on le fait concrètement là, et qu'on remue parfois les choses qui sont difficiles, ça fait mal. Et ce matin, je vais pour faire l'état des lieux, il faut se poser des bonnes questions. Parce que pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Et ce matin, j'aimerais qu'on le fasse ensemble, mais vraiment, n'y voyez là aucune accusation, n'y voyez là aucun jugement. Moi, je dois le faire, l'état des lieux, là. Quand j'ai préparé ce message-là, je peux vous dire que ça m'a remué aussi, parce qu'il y a des choses, au fond, là, si on ne se pose pas, bah, notre vie, elle continue d'avancer et au vu de la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, avec toutes les choses qui nous occupent, qui nous prennent la tête, qui nous amènent à penser à autre chose, il y a plein de raisons de faire tout ce que l'on veut sauf de s'attacher à Christ. Il y a toutes les raisons aujourd'hui. Par les réseaux sociaux, par les médias, par la technologie actuelle, par notre famille, nos pensées, tout ça, ça peut occuper une place plus importante que Dieu. Pourtant, Dieu, il nous demande de le mettre à la première place. Et ça, il faut qu'on fasse l'état des lieux. Vraiment, je crois ce matin, et c'est pour ça que mon cœur, il était contrit de faire ça, parce que je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire, je vous le dis, hein, ce n'est pas quelque chose qui est simple à vous partager, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je transmets aux autres? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux transmettre de bon? Et il faut qu'on se pose vraiment des questions concrètes pour vivre ça. Si jamais vous n'êtes pas posé la question jusqu'à présent, il n'est pas trop tard. Ce matin, on va prendre le temps. Mais je crois que si on veut vivre la croissance de l'Église, il faut le faire. Et on va regarder ensemble à quelques exemples et d'un bon état des lieux. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de David. Alors l'histoire de David, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire. Ça commence 1 Samuel 16, ça finit au début du livre des rois. On ne va pas pouvoir prendre le temps de le lire, l'ensemble de la vie de David, mais on va s'intéresser à David ce matin. Parce que je crois qu'il est très très parlant dans la transmission et dans ce que lui l'a transmis et dans les défis qu'il avait personnellement. On sait que David, c'était un tueur de géants. David, il a tué un type de 3 mètres de haut, il n'avait pas peur, alors qu'il défiait Israël, alors que tous tremblaient devant lui, David, il n'a pas eu peur, il l'a défié. Et vous savez ce qu'il a transmis d'extraordinaire? C'est qu'il s'est entouré de personnes, et ces personnes sont devenues aussi des tueurs de géants. Pourquoi? Parce qu'il a été un transmetteur de qui il était. Il a été un transmetteur de ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'était tuer des géants. Il s'est entouré de personnes. Ça a démoli du géant. Eh bien, on va lire ensemble là, juste ce passage-là pour s'intéresser à comment des géants ont aussi été abattus par d'autres. Et c'était à David, il était fatigué là, il s'était battu et on fait un état des lieux. Alors un super nom, hyper simple à prononcer, Ishbi Benob, un descendant de Rapha. Alors Rapha, c'est une famille et ça veut dire littéralement géant. Il se vanta de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kg. Imaginez un peu la pointe de bronze là. Mais Abishai, fils de Tseruya, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. On n'en parle plus. Et il y a plusieurs exemples comme ça qui sont donnés. Et David, il s'est entouré de personnes, de valeureux guerriers, qui ont aussi été des tueurs de géants. Pourquoi? Parce que David transmettait et parce que David influençait autour de lui. Il y en a d'autres, on ne va pas prendre le temps de les lire là, mais l'armée d'Israël, grâce à David et à travers la consécration de David à Dieu, l'armée d'Israël, elle était imbattable. Et chaque fois qu'un peuple étranger pouvait venir et il se mesurait à Israël, David et son armée, ils n'en faisaient qu'une bouchée. Parce que David était consacré à Dieu et parce que David avait compris qu'il avait besoin de s'entourer de personnes qui étaient comme lui. Et il s'est entouré de personnes qui étaient comme lui. Il y a un état des lieux à un moment des batailles qui ont été menées et des guerriers. Il y en avait là. Quand on nous raconte ça, on se dit autour de lui, il y avait vraiment des guerriers vaillants, puissants et forts. On peut transmettre des bonnes choses comme David autour de nous, mais on peut aussi transmettre de mauvaises choses à travers nos actions. Et on va regarder une petite vidéo juste pour nous interpeller à travers cela parce que il n'est pas rare que les enfants fassent la même chose que leurs parents. Et on va voir un petit peu par l'illustration. Alors, elle l'a peut-être déjà vu. Hein.
don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye.
And you ain't been gonna climb as light as I am.
Go back where you came from. Learn this
thing. Go back where you came from.
Les enfants voient, les enfants font. Il faut cette, la responsabilité de ce que nous faisons a une portée. On ne mesure pas toujours la responsabilité pleinement de ce que nous faisons. Parce que notre responsabilité, en fait, elle est beaucoup plus grande parfois que ce qu'on le pense. Parce que, et ça nous met quelque part une certaine humilité, du coup, dans nos actions et dans la portée de celles-ci. Les enfants voient, les enfants font. Je sais que si je fais des choses, il y en a d'autres qui le voient, vous le voyez vous-même. Et ça peut amener une transmission. Mais si je me comporte mal, qu'est-ce que ça amène ? Aussi une transmission. Et c'est pour ça qu'on doit prendre conscience de la responsabilité que l'on a. Parce que si on ne le fait pas, ça peut nous amener forcément à nous centrer sur nous-mêmes et à penser que ce que nous faisons n'a pas plus de valeur que nous-mêmes. Puisque ce que nous faisons va simplement nous impacter, nous, si on pense que notre responsabilité, c'est nous pour nous. Et vu la société individualiste dans laquelle on est, si on ne prend pas garde à ça, on se laisse emporter par ça. On se laisse emporter par ça parce qu'on pense à nous-mêmes. Dans les statistiques, il n'est pas rare justement de voir un enfant qui a été battu devenir violent. Il n'est pas rare que de voir un enfant fumer parce que ses parents fument, de voir un enfant boire parce que ses parents boivent. Ces choses-là, on les transmet. Et je me rappelle ce que me disait à un moment Daniel, ma femme. Elle me rapportait justement ce propos-là que sa mère lui disait. Et en substance, c'était ça. Elle disait, sa mère, elle est là en plus, Gislaine. Je reprends tes propos là, mais pas de pression. Elle disait, je ne suis pas riche, mais le plus grand héritage que je veux te transmettre, c'est la foi en Dieu.
Amen.
Amen. Et vous savez, c'est bon de prendre ces principes-là et d'en faire une démarche dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a cet état d'esprit-là, on est parfait et qu'il n'y a pas des choses qui peuvent ne pas aller dans nos vies. Mais il faut être intentionnel. Il faut se calibrer, se programmer pour choisir d'être intentionnel et de vouloir bien transmettre les choses. Parce que si on n'y prend pas garde, de toute façon, on va transmettre quelque chose. Et si on ne se programme pas pour apporter quelque chose de bon, je peux vous garantir que ce qu'on va transmettre, ça ne va pas être quelque chose de bon. C'est pour ça que l'état des lieux, en fait, il est essentiel. Alors, évidemment, quand je vous parle de transmission, on peut avoir tendance à se dire, mais bon, mes parents, ils ne m'ont pas transmis des choses bonnes, c'est de leur faute, et on ne prend pas notre responsabilité vis-à-vis de ça. Et je peux vous le dire, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits-enfants. C'est notre responsabilité à tous de faire le choix de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Quelles que soient les choses qui nous ont été transmises, des bonnes ou des mauvaises. On va le voir à travers un exemple un peu plus loin, quand on va s'intéresser à David, mais je bénis Dieu parce qu'il a fait le choix, lui David, quoi qu'on ait pu lui transmettre, de choisir de suivre Dieu, parce que c'est notre responsabilité à chacun. Et on est tous enfants de quelqu'un, sauf s'il y a un problème là, mais je crois qu'on l'est tous. On l'est tous. Et du coup, c'est notre responsabilité à tous de faire ce choix-là que, malgré les choses qui nous ont été transmises, c'est notre responsabilité d'être en relation avec Dieu et de le suivre ou non. Jésus disait « Tous auront entendu parler de moi. » Et c'est un choix à chacun de le faire. C'est, si tu es venu peut-être pour la première fois ici et que tu n'as pas entendu parler de l'Évangile et que je suis en train de te parler de ça et tu te dis « Mais déjà, je n'ai pas la foi en Dieu, je ne sais pas qui c'est Jésus. » Je peux te dire que Jésus, il peut changer ta vie. Et quand tu décides de le suivre, toutes les blessures de ton passé, toutes les choses de ton passé, elles peuvent être transformées parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est là, qui va pointer du doigt tes faiblesses, mais c'est un Dieu de restauration qui veut guérir, qui veut transformer, qui veut amener une victoire dans ta vie et, une victoire dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Et donc, autant c'est notre responsabilité de faire des choix dans notre vie qui peuvent amener des changements, autant c'est notre responsabilité de faire attention à ce que l'on transmet aux autres, parce que cela peut avoir un impact. Et j'aimerais qu'on puisse faire du coup l'état des lieux, et on va se poser des questions, très concrètement. Alors, les questions que je vais d'abord vous poser, celles-ci, elles ont plus tendance à s'adresser à des parents, des grands-parents, à des personnes qui ont eu des enfants. Mais ça n'empêche que on peut influencer d'autres personnes qui sont autour de nous. Et il est important justement de pouvoir se poser les questions et de tous se sentir concernés par cela. Et rassurez-vous, si vous ne vous sentez pas tout de suite concerné par cela, j'en ai en stock là et ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je ne suis pas parent, du coup, les premières questions, j'aurais pu me dire « ça ne me concerne pas ». Si, si, ça me concerne aussi. En tant que responsable de jeunes, du coup, du rôle et de l'impact que je peux avoir auprès des jeunes qui fréquentent ce groupe. Alors, regardons ensemble à ces quelques questions. Donc, pour faire un bon état des lieux, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu transmets de bonnes ou de mauvaises valeurs aux plus jeunes ? Question suivante. Est-ce que chez toi, tu bénis ou tu critiques ? As-tu toujours des propos pessimistes ou optimistes ? Ça influence, ça, vraiment. Est-ce que tu parles en faisant attention à ton vocabulaire ? Mets-tu en place des cultes de famille pour vivre des temps avec tes enfants et avec ta femme ? Alors ici, ça s'adresse aux hommes en particulier parce que la responsabilité devant Dieu, spirituellement, c'est aux hommes. C'est ma responsabilité à moi, avec ma femme, de vouloir la porter et dans la relation avec Dieu. Souvent, on peut avoir un rôle d'abandon un peu, et je m'adresse en particulier à vous, messieurs, et c'est vraiment pas facile parce qu'on se dit, bah non, c'est autant notre responsabilité à l'un qu'à l'autre, là. Non, je vous assure, c'est notre responsabilité, et on doit veiller à ça. Et je bénis Dieu pour les femmes qui sont intentionnelles et qui sont là à vouloir une démarche justement pour vivre une relation sérieuse avec Dieu, et ça peut se manifester par un culte. C'est un exemple. En fait, ces questions-là, je vais continuer avec ces questions-là, mais ce que je veux justement garder bien en tête à travers toutes les questions, c'est que je crois qu'il peut y avoir un changement dans nos vies sur toutes ces questions-là. Il ne faut pas s'accabler de ça. Parce que les questions qu'on va poser à travers l'état des lieux qu'on va faire, ça peut nous amener à deux choses. Soit à culpabiliser, et auquel cas ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable qui est en vous, qui vous amène à vous dire, à vous penser plus bas que terre, mais surtout à ne pas vouloir venir vers Dieu de ça. Ça, c'est le rôle du diable que de vouloir nous culpabiliser pour nous amener à être brisé et à être paralysé, même dans notre relation avec Dieu. Par contre, ce que Dieu veut, c'est qu'on vive une conviction de péché. Et les questions-là peuvent peut-être nous amener à être convaincus de péché, de situation et de ce que l'on transmet et de ce que l'on vit. C'est pour ça que ces questions-là, elles sont posées. Donc prenez bien mesure de ça parce que les questions, elles peuvent nous amener à une interprétation. Il faut vraiment être vigilant par rapport à ça et veiller sur nos cœurs pour que ça ait un impact et que ça nous amène non pas à nous éloigner de Dieu, mais au contraire, à nous jeter dans ses bras d'amour parce que lui, il nous transforme, parce que lui, il peut avoir un impact réel dans nos vies. Et de même, s'il y a ces questions-là, je crois qu'il faut aussi faire attention pour ceux les plus jeunes qui peuvent être là, ou pour tous les enfants, vu que tout le monde est enfant, de ne pas rejeter la faute sur nos parents en se disant « Ah ouais, mes parents, ils n'ont pas mis ça en place. Mes parents, ils n'ont pas fait cela et ils m'ont transmis des mauvaises choses. » Et c'est là justement que ça peut nous amener du coup à une décision qu'on va avoir plus tard ensemble pour avoir un impact bon et sain dans notre vie et dans la vie de nos familles. Question suivante, continuons l'état des lieux. Question, c'est est-ce que tu loues Dieu chez toi, devant tes enfants? Est-ce que cela entraîne aussi tes enfants à le faire? Question suivante, est-ce que tu prends du temps dans la prière ou la lecture de la Bible de sorte que tu donnes goût aux plus jeunes de cela? Est-ce que tu demandes pardon quand tu devrais, ou tu laisses parler ton orgueil ou cette fausse pudeur qui t'empêche d'admettre tes fautes? Est-ce que tu prends des temps de qualité avec tes enfants pour discuter de la foi? Je ne suis pas parent, mais je me dis, en posant ça, je me suis dit, oh Seigneur, je veux vivre cela et je veux transmettre cela aux enfants que j'aurai. Je ne veux pas être une occasion de chute, je veux être une occasion de bénédiction. Et ces choses-là, je veux les vivre vraiment. Je ne veux pas laisser parler mon orgueil ou ma fausse pudeur qui m'amènerait à ne pas m'excuser auprès de mes enfants et même déjà aujourd'hui auprès de ma femme. Je ne veux pas vivre ça parce que ça nous amène forcément à de la division. À la division dans notre couple, à la division dans la famille et a fortiori la division dans l'Église. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment que ces questions-là nous servent de tremplin pour nous jeter dans les bras de Dieu et vouloir vivre pleinement ce que Dieu veut pour nous. Et c'est une église unie, c'est une église qui porte du fruit. C'est ça en fait, c'est une église qui porte du fruit. Le danger, à travers ces questions-là, parce qu'il y en a pas mal là, et puis il va y en avoir quelques autres, c'est que je continue mon message et qu'après, on sort tous pour aller manger, on retourne à notre train-train habituel, et puis ce message-là, il va rester comme tous les autres messages. Peut-être tous les autres messages qu'on a vécus jusqu'à présent, ça part aux oubliettes. Je ne veux pas que vous le reteniez parce que c'est moi, hein. Même si ça me ferait plaisir. Mais je veux que vous le reteniez parce que si on ne fait pas cet état des lieux véritablement, il n'y a rien qui bougera dans nos vies. Rien. La question, c'est est-ce que tu es prêt à prendre le temps pour cela? Est-ce que tu veux prendre ce temps? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette démarche? L'enjeu, il est de taille. Et alors, ce que je veux vous partager, je vous le partage parce que c'est vraiment essentiel. Et ma femme, elle s'investit auprès des enfants et j'ai appris qu'il y avait une réunion parents-enfants dernièrement. Et cette réunion, elle avait pour but de permettre aux parents de s'intéresser à l'éducation spirituelle de leurs enfants. Et j'en parlais avec Daniel à un moment donné, le pasteur, hein, pas ma femme. Et il me disait qu'il y avait des statistiques qui avaient été faites. Il disait que 60% des chrétiens, des enfants de chrétiens, quittent l'Église et la foi. La question que je veux me poser, et elle est dure cette question-là, est-ce que c'est parce que l'éducation spirituelle est davantage portée par le club des enfants que par les parents? Ou est-ce que c'est pour une autre raison? Je pose la question parce que le bilan de la présence des parents lors de cette réunion-là, elle n'a pas été importante. Et vous savez, je suis enseignant, et les réunions parents-prof, j'en ai vécu quelques-unes. Là. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai vu quasiment tous les parents, voire même les deux parents en même temps, pour chaque enfant. La question qui peut se poser, c'est est-ce que cela pourrait indiquer aux enfants que l'école est plus importante que la relation avec Dieu ? Il faut faire ce constat-là. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que je veux que ces questions-là elles soient l'occasion d'avancer avec Dieu. Vraiment, l'enjeu, il est trop important, mais il faut se poser ces questions-là, vraiment. Est-ce que il faut qu'on continue à se poser ces questions-là parce que vraiment, je sais qu'elles sont dures là, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille vraiment. Continuons. Est-ce que ta foi, c'est venir simplement le dimanche matin à l'église ? Est-ce que ta relation avec Dieu, c'est uniquement lorsque tu as un souci, une tempête dans ta vie ? Lorsque tu viens à l'église, restes-tu assis ou te lèves-tu pour marquer ta joie et célébrer les qualités de Dieu ? La position, à la rigueur, ça n'a pas d'importance, là. C'est l'état de notre cœur, là. Mais l'état de notre cœur, il est appelé à déborder tellement que je ne peux pas rester assis sur ma chaise. Je ne peux pas rester avachi et sur ma chaise et laisser le temps passer. Et ça, ces questions-là, elles sont valables pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, parents, enfants, tout le monde, là, tout le monde peut en prendre pour soi et justement se poser ces questions-là. Question suivante aussi, critiques-tu les messages ? Avec ce que je viens de vous partager, hein, je ne sais pas ce que je vais me prendre là. Non, je vous le dis. C'est important. Mais quand on fait l'état des lieux, on va fouiller même dans les recoins. Là, c'est difficile. C'est pour ça que je n'avais pas trop envie de vous partager ce message-là. Là, parce que, Seigneur. Mais il faut se poser ces questions-là. Continuons avec les questions. Lorsqu'une prophétie ou une parole est annoncée, te dis-tu « Ah tiens, c'est pour lui cette parole, il en a bien besoin !» sans te remettre en cause. Et penses-tu, question suivante, penses-tu que la repentance, ce n'est pas pour toi, mais pour les autres ? Quelle atmosphère ou état d'esprit transmettons-nous en réagissant comme cela dans l'Église ? Parce que si on a tendance à vouloir pointer les autres, l'atmosphère dans l'Église, c'est nécessairement de la division. Et je crois qu'on veut rester unis parce que Dieu nous aime et parce qu'on est appelé par Dieu à être unis. Mais il faut vraiment veiller à ce que l'on fait et à ce que l'on pense à travers cela. Question suivante, est-ce que l'ordre du culte est important ? On a nos habitudes, on a nos manières de fonctionner, notre tradition. Est-ce que l'ordre du culte est aussi important ? Si on commençait par la parole plutôt que par la louange. Alors, moi, ça me dispose aussi là d'avoir un temps de louange et je bénis Dieu du groupe de louange, des groupes de louange qui sont là parce qu'on peut avoir l'occasion de s'approcher de Dieu là. Mais si on commençait par la parole et qu'après on faisait de la louange, est-ce que ça changerait quelque chose ? Alors, ça changerait quelque chose si justement, je la pose dans la question suivante, là. Regardons ensemble, on va poser. Alors, ça, c'est autre chose, là. Si c'est une femme qui sert la Sainte Seine, la prendrais-tu ? Je ne sais pas, hein, on a l'habitude que ce soit des hommes. Je pose la question. Question suivante, est-ce que la place où tu t'assois est importante dans l'Église et pourquoi ? Ouais, pourquoi tout le monde rit, là ? Question suivante. Est-ce que le temps de louange le dimanche matin, c'est comme les bandes annonces au cinéma? Non, mais si, du coup, si on inverse le message et puis le temps de louange, du coup, on se dira mince, c'est pas pareil. Mais si notre quand on arrive, parce que ça pose la question en fait de ce qu'on fait de la louange. Si on est là en étant passif, en attendant que le temps passe jusqu'à ce qu'il y ait la parole, ou si on arrive en retard systématiquement à l'église, on peut penser que la louange le dimanche matin, ça pourrait être comme les bandes-annonces au cinéma. Et la liste, elle n'est pas exhaustive, là, je vais m'arrêter avec ces questions-là. Hein. C'est bon, là. Ouais, bon, Daniel, il va faire ça la prochaine fois. Ouais, de toute façon, j'ai assez parlé, là, je ne veux plus parler de ça. Sinon, vous allez me lapider là, avec toutes ces questions. Non, mais ces questions-là, elles ont vraiment pour but que ça nous éveille et que ça nous amène à nous poser des bonnes questions. Parce que si on ne le fait pas là, si on le fait jamais, on ne pourra pas avancer vraiment. Et le point, c'est que les habitudes que l'on a là, vis-à-vis peut-être de la Sainte-Seine, vis-à-vis de l'ordre du culte, vis-à-vis de comment on vit l'Église et comment est organisée les choses, elles sont là. Eh bien, le danger, c'est que ces habitudes-là peuvent devenir des préceptes, des règles et même des lois. Et vous savez qui c'est qui faisait comme ça? C'était les pharisiens. Il ne faut pas qu'on devienne comme des pharisiens, il faut qu'on s'en garde, il faut qu'on garde nos cœurs, et il ne faut pas qu'on devienne ces pharisiens-là, il faut absolument qu'on vive cela, il faut qu'on fasse attention à ça, parce que le fondement de notre foi, c'est une relation avec Dieu, et c'est pas le fondement de la relation avec Dieu, ce n'est pas des préceptes, des règles, des lois, mais c'est la conséquence de notre relation avec Dieu qui nous amène à nous soumettre à Dieu, à obéir à Dieu et à vivre concrètement ce que la parole nous dit en obéissant vraiment à ce que Dieu dit. Mais Dieu ne dit pas qu'il faut que l'ordre du culte soit comme ça. C'est juste une convention. Et on peut l'appliquer pour plein d'autres choses, mais là, je n'irai pas là parce que ça, Daniel va tirer à... ça bénit. Oh là là. En fait, le point, c'est qu'on vient de voir que l'on transmet ce que l'on fait, mais souvent, c'est que nos actions émanent de qui l'on est. Et c'est pour ça que Jésus était venu confronter les pharisiens. Les pharisiens, ils agissaient comme ça. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils le faisaient, c'est pour qui ils étaient à l'intérieur. Et c'est là que Jésus venait leur dire « Hey, les gars, là, vous faites n'importe quoi. C'est pas la forme là qui va m'intéresser à ce que vous jeûniez un certain nombre de fois par jour, à ce que vous priez un certain nombre de fois par jour. Non, c'est pas ça. C'est là dans le cœur. Pour ça que il faut être intentionnel dans notre démarche. Il le faut. Et les blessures de notre passé, de notre éducation, de nos valeurs erronées peuvent ressurgir dans notre quotidien. Et on peut à ce moment-là transmettre des choses destructrices autant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Et je vais prendre l'exemple de David, et là on va s'y intéresser un peu plus en profondeur pour qu'on regarde à cela. Et on n'aura pas le temps de la lire là, il y a pas mal de chapitres, mais je vais vous faire un résumé et je vais m'intéresser à certains points, histoire qu'on puisse comprendre que ce qu'il était a résonné autour de lui et il a transmis des choses autour de lui. Et donc on sait que c'est un roi valeureux, là. On a vu qu'il a tué des géants, qu'il s'est entouré d'une armée, c'était extraordinaire. On dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Oui, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il a d'ailleurs été dans la lignée de Jésus, puisque dans les ascendants de Jésus, il y avait David. Son nom est resté dans les annales. Il a libéré le peuple d'Israël, il est devenu roi d'Israël parce qu'il a suivi ce que Dieu voulait. Mais on connaît aussi tous la situation qu'il a vécue avec Bathsheba. Il a vécu un adultère avec elle. Et on ne va pas s'intéresser à ce péché-là, mais on va s'intéresser aux conséquences de ce péché-là. Pourquoi? Parce que Quand justement Nathan est venu confronter David en lui parlant du péché de Bathsheba, il y a eu des conséquences qui ont été posées. Et quand on regarde ça de prime abord, on peut se dire « Ah tiens, Dieu, il a maudit David. » Pas du tout. Pas du tout. Dieu, il n'a pas maudit David. Dieu, il était bloqué par le manque de relation avec David pour transformer la vie de David pleinement sur qui il était, de sorte que David ne subisse pas les conséquences de son acte avec Bathsheba. Le problème, c'est vrai, il s'est repenti. Mais le problème, c'est qu'il avait besoin de faire un état de lieu profond dans sa vie, des raisons qui l'ont amené, et la résonance que ça a eu sur son entourage. Et on va voir que le péché qu'il a vécu, même s'il s'est repenti, ça a eu un impact autour de lui tel que ce qu'il a transmis, à ce moment-là, volontairement ou involontairement, ça a été terrible pour lui et sa famille. Ça a été terrible. Et on va regarder à ça en particulier. Je vais prendre le temps de résumer un peu ce passage-là parce que vous savez que David, il a eu plusieurs fils. Il a eu plusieurs femmes aussi. Et là, du coup, avec tout ça, on voit que les problèmes, ils sont là, puisque la volonté de Dieu, elle est présentée notamment dans la Genèse, c'est un homme avec une femme. Et il n'y a pas deux femmes, il n'y a pas trois femmes, il n'y a pas, d'autres combinaisons possibles, hein, c'est un homme avec une femme. Et on sait qu'il a eu un fils, Absalom, et si vous avez lu l'histoire, justement, on sait que ce qui s'est passé avec Absalom, et c'était assez terrible. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, pour resituer, pour que tous on soit au clair avec ça, Absalom, en fait, il avait une sœur, Tamar, qui s'est fait violer par un de ses demi-frères, qui s'appelle Amnon. Et Amnon avait violé Tamar parce qu'il l'a trouvée belle. Le truc le plus fou là-dedans, là, c'est que non seulement il l'a violée, mais en plus il l'a rejetée parce qu'il en était dégoûté par la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé, après dans le cœur d'Amnon, mais on sait ce qui s'est passé dans le cœur d'Absalom. C'est que Absalom, il n'avait rien fait sur le moment, mais la haine a commencé à le ronger d'une profondeur. Et deux choses qu'on aurait pu s'attendre de David. David, là, ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu réagir et punir Amnon. Il n'a rien fait. Il aurait pu aller voir son fils Absalom et le consoler, vu qu'il y avait sa sœur qui avait été souillée. Il aurait pu en prendre soin. Il ne l'a pas fait. Il était roi d'Israël, il savait comment régner, il avait la sagesse et l'intelligence pour le faire, mais il n'a pas fait attention à l'éducation de ses enfants. Ce qui est surprenant, c'est que justement, il n'a rien fait. Et même lorsque Absalom a tué Amnon, il n'a rien fait non plus. On dit juste qu'il était en colère. À un moment, il voulait poursuivre Absalom pour le tuer, mais on sait où il est. Enfin, David savait où était Absalom, mais il n'avait pas été le chercher pour le tuer. Il ne s'est rien passé. David n'a rien fait. Pourquoi ? C'est pas normal. Je pense que vous réagissez comme moi. Vous dites, mais c'est quand même extraordinaire. Un roi pareil, un homme selon le cœur de Dieu pareil, et rien, rien, pas de justice, rien. Eh bien, la vérité, je crois, c'est qu'il faut remonter un peu plus loin dans la vie de David, et notamment à comment lui avait été éduqué. Et on remarque cela, justement dans les premiers chapitres de David, c'est que quand Samuel est venu à un moment dans la maison d'Isaïe, le père de David, tous les fils avaient été convoqués, parce qu'il était temps d'élire le nouveau roi. Tous les fils avaient été convoqués, sauf David. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était parti garder les moutons. Que faisaient ses grands frères ? Ils faisaient la guerre. Eh bien, au niveau de la noblesse, de comment c'était vu à l'époque, l'action, la profession, ce que faisaient ces hommes-là, berger, là, c'était pas terrible. Hein. C'était vraiment pas terrible. Bon, fallait bien qu'il y en ait un qui le fasse, hein, parce qu'il y avait des troupeaux. Mais n'empêche que c'est vraiment pas terrible comme situation. On voit à travers cela que l'éducation que David a eue n'a pas été la même que pour ses frères. Il semble qu'il y avait aussi un dysfonctionnement dans la famille de David et que les dysfonctionnements du passé de David ont certainement impacté sa vie parce qu'il n'avait pas été révélé ni traité. Et on le voit même en parcourant un peu comment ça a été fait, parce que David, il s'est mis un moment au service de Saül, et on voyait que David, il voulait plaire à Saül. Et je pense que même Saül, pour lui, pouvait peut-être représenter un père qu'il n'avait pas eu, qui n'avait pas pris soin de lui. Mais le pire dans l'histoire, c'est que même Saül a essayé de le tuer. Imaginez un peu comment David a dû vivre avec cela. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Je crois que ça a tellement impacté sa vie que la réaction de David vis-à-vis de ses enfants est aussi la conséquence de de l'éducation qu'il a eue. C'est une interprétation, mais je crois que justement elle est là pour nous avertir, nous, de l'impact que nos relations les uns avec les autres, parents avec enfants, enfants avec parents, nous les uns les autres, les grands-parents avec les petits-enfants, tous, on est concernés par cela. Et je crois que même, et c'est là le plus fort dans l'histoire, c'est qu'on sait que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a vécu ça. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne peut échapper aux conséquences de ce qui nous a été transmis ou de ce qu'on a transmis si on ne fait pas un état des lieux concret, profond, mais vraiment profond et intense de nos vies et qu'on ne décide pas de vivre un changement profond dans nos vies, une transformation véritable, une métamorphose, de sorte qu'il y a un changement et que ce que l'on a vécu ou ce que l'on peut transmettre n'est pas la même résonance que ce que David a transmis. Il faut cette transformation en profondeur. Le point là, on a loué Dieu tout à l'heure, et on a pris un temps avec Dieu, c'était vraiment extraordinaire. Mais c'est notre responsabilité à nous. Vous connaissez certainement ce verset-là, mais on va le relire ensemble. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas à tes parents de veiller sur ton cœur. Ça veut dire que ce n'est pas à tes amis de veiller sur ton cœur. Ça veut dire que ce n'est pas à ton pasteur de veiller sur ton cœur. Ça veut dire que ce n'est même pas à Dieu de veiller sur ton cœur. C'est à toi. C'est la responsabilité, elle est à toi. Et du coup, si tu ne veux pas faire l'état des lieux, tu ne pourras pas vivre une transformation véritable parce que c'est à toi de veiller sur ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, transforme-moi, mais l'école de Dieu, ce n'est pas je transforme tout d'un coup et hop, tu es parfait. Hein. Qui c'est qui est parfait là, qui a choisi de vivre avec Dieu, qui est parfait ? Personne. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas. C'est parce que Dieu a choisi de ne pas vouloir le faire parce que c'est à toi de veiller sur ton cœur. C'est ta responsabilité à toi. Et Dieu, il est tout puissant, il peut tout, il est omnipotent, il est omniprésent, il est tout, il est le Dieu d'éternité. Il n'y a rien qui lui est impossible. Mais il a choisi de ne pas faire, de ne pas s'autoriser, de transformer si nous, on n'était pas d'accord. Si nous, on ne faisait pas la démarche Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes. Je veux que tu sondes mon cœur, oh Dieu, parce que là, il y a quelque chose en moi. Je sais que je vis des choses, je transmets des choses. Je veux vraiment savoir ce que je transmets, parce que si je fais pas attention, eh bien, je crois que je pourrais transmettre des choses abominables autour de moi. J'ai besoin que tu me sondes, oh Dieu, parce que si tu le fais pas, eh bien, là, je vais continuer ma vie, je vais continuer les péchés dans lesquels je suis. Je vais vivre ma vie, mon petit train-train, et ça va rien changer. Ça ne va rien changer. Vous savez, mais ce qui est fou, là, c'est que David, à cause de ça, là, David, il a perdu deux fils. Il a perdu son trône. Et il a perdu son trône pour un temps avant de pouvoir le retrouver. Il a mis du temps et tout ça, ça a été une épreuve pour lui. Ça l'a accablé, ça l'a attristé. Dieu, il ne veut pas qu'on soit comme ça. Il ne veut pas qu'on soit brisé par les circonstances de nos vies parce que ce qu'on nous a transmis ou ce que l'on transmet a une résonance et ça nous amène parfois à vivre des débâcles dans nos vies. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il ne veut pas ça. Le conflit, en plus, ce qui est fou, là, c'est que David, il a vécu ça, mais le conflit, il a encore continué. Quand au début du roi, là, il y a justement le fait de la succession qui va arriver. David, il est alité. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a Salomon qui doit prendre le trône là, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui veut prendre la royauté. Et c'était Adonia, un autre des fils de David qui veut prendre la royauté. Et qui commence à vouloir s'en mêler, qui vient faire son petit truc et tout là. Et puis, à un moment, il est même proclamé roi là par certains. Et là, se rendent compte Bathsheba et puis Nathan qui s'accordent pour dire c'est Salomon qui doit être roi. Et amen, la volonté de Dieu s'est accomplie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adonia, il est mort. Je ne veux pas qu'il nous arrive la même chose que comme ce qui est arrivé à David. Pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui est le plus troublant. On peut se dire, c'est bon, je suis ancré en Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si tu ne choisis pas de faire un état des lieux profond et tu ne dises pas, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Parce que c'est notre responsabilité à tous. Il y a ce texte-là, justement, très bien. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On va chanter après ce chant-là, mais j'aimerais, avant qu'on le fasse, c'est qu'on prenne une décision ce matin. Je peux vous parler de ça, mais si on retourne chez soi tranquillement et que ça ne change rien, c'est pas possible. Il faut qu'on prenne une décision. Si ce qui a été apporté, il peut vous amener à demander pardon, faisons-le. Faisons-le, il ne faut pas qu'on s'arrête. S'il y a des choses, il faut se poser pour discuter avec nos membres de la famille, à nous poser devant Dieu pour rétablir les choses, faisons-le. Dieu, il peut révéler l'état de nos cœurs. C'est David qui chante ce chant. Je ne sais pas s'il l'a fait avant ou après, qu'il y ait eu ces choses-là, la perte de ses enfants, mais ce que je sais dans mon cœur, c'est que David, il voulait s'accrocher à Dieu, il voulait dépendre de Dieu. Et c'est pour ça que je veux vous donner deux invitations ce matin, pour qu'on puisse vraiment concrétiser ça. D'abord, je crois que peut-être il y en a certains, ils veulent un changement profond dans leur vie, ils veulent faire un état des lieux sincère devant Dieu. Et je veux vous inviter, ceux qui veulent faire cet état des lieux-là pour se poser devant Dieu, c'est pas là que automatiquement là, Dieu il va nous révéler tout d'un coup, non, il va le faire par étapes. Mais la décision que vous allez prendre ce matin, je veux qu'elle soit symbolique dans le sens où dit, ok, c'est-à-dire là, je m'engage à vouloir faire cet état des lieux et je le commence maintenant en me levant à ma place. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire ce matin. Pas pour qu'on puisse se pointer du doigt les uns les autres. Là. Moi, je suis debout, mais si j'étais assis, je me lèverais. Là. C'est un appel en fait, à Dieu que chacun en est appelé à faire, et je veux qu'on puisse mettre en application concrètement ce message-là. Ça, c'est la première invitation. La deuxième invitation, c'est ceux qui veulent peut-être un changement dans leur famille, parce que ils voient que dans leur famille, il y a aussi un besoin profond. Il y a des choses qui ont été transmises et qui sont terribles. Et vous voyez l'état des choses là. Peut-être vous le voyez, peut-être vous ne le voyez pas exactement, les raisons profondes qui font qu'il y a telle ou telle chose qui se passe. Mais vous voulez la grâce de Dieu, une révélation de Dieu fraîche pour vivre les choses différemment. Eh bien, si vous êtes aussi de cela, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et ceux qui ont une famille qui ne croit pas en Dieu, peut-être justement, et qui vivent des choses là, j'aimerais qu'on puisse prier pour nous-mêmes et pour nos familles. Et c'est pour ça vraiment, si ce matin, ce message-là, il a un impact dans vos vies, j'aimerais que vous puissiez vous lever à votre place, parce que j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble. C'est pas moi, c'est pas mon fait, c'est Dieu qui agit en chacun d'entre nous. Si vous voulez vivre cela, vraiment, je vous invite à vous lever ce matin. Et puis après, on chantera ensemble ce chant, parce que ce chant sonne de moi, ô Dieu, parce qu'on a besoin d'une fraîche révélation. Alors je vous invite vraiment, prions ensemble. Oh mon Dieu, on veut se soumettre devant toi, Seigneur, parce que même ton enfant David, qui était un homme selon ton cœur, il n'a pas tout vu. Seigneur, on veut que tu sondes nos cœurs, ô Dieu, parce qu'on veut qu'il y ait un changement profond dans nos vies. On veut pas s'en arrêter à ça. On veut pas vivre les choses et continuer notre train-train habituel. Père, je t'en prie, Seigneur, viens transformer nos vies. Viens amener un changement concret. Je te prie, Seigneur, pour une fraîche révélation. Je te prie pour que vraiment on puisse avoir les yeux clairs là-dessus, parce qu'on veut vivre une transformation. On veut pas que ce soit quelque chose, Seigneur, de passager. On veut avancer avec toi. On veut, Seigneur, une transformation en profondeur qui va amener des changements concrets pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous, parce qu'on veut transmettre quelque chose de frais, quelque chose de bon. On veut transmettre ta parole, mais on veut pas que ce soit souillé par notre péché. On veut pas que ce soit souillé par notre passé. On veut pas que ce soit souillé par toute chose, Seigneur, qui pourrait nous empêcher de nous approcher de toi et diffuser ta parole, parce que tu es, ô Dieu, un Dieu restaurateur, parce que tu es, ô Dieu, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui nous prend dans tes bras d'amour. Et quel que soit l'état des lieux, tu veux nous prendre dans tes bras d'amour. Seigneur, viens nous prendre, Seigneur, ce matin dans tes bras d'amour, parce qu'on a tant besoin de toi. Ô Dieu, c'est toi qui révèles l'état des cœurs. Je te prie aussi, mon Dieu, pour nos familles, Seigneur, parce qu'elles peuvent être brisées à cause, Seigneur, de choses qui ont été mal transmises. Père, on veut pas, Seigneur, être accusateur, mais Seigneur, on veut t'implorer, ô Dieu. On veut t'implorer, ô Dieu, d'une fraîche transformation. On veut, Seigneur, que tu puisses agir en profondeur, parce que nous croyons, Seigneur, la puissance de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es victorieux. Nous croyons que tu es le Dieu d'éternité. Il n'y a rien qui t'est impossible. Alors, Seigneur, ô Dieu, agis déjà dans nos familles, Seigneur. Nous voulons prendre position, que ce matin, Seigneur, soit une fraîche révélation de toi et un engagement concret, Seigneur, à vivre une transformation, parce que nous voulons transmettre des bonnes choses, parce que nous voulons, Seigneur, vivre une vie pleine avec toi, une relation avec toi fraîche, nouvelle. Oh, merci, ô Dieu, Seigneur, pour ton action. Merci, Seigneur, parce que tu es bon envers nous, Seigneur, et tu nous révèles ces choses. Alléluia, roi des rois. Alléluia, Jésus.